Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Le psaume 8, si vous voulez bien. Alors, il est court, mais on va y apporter une réflexion, et ça nous conduira également à nourrir notre méditation sur les réalités de notre état d'homme, l'espèce humaine, l'humanité, si vous voulez aller par là. Alors, le psaume 8, je lis le titre, hein, pour moi j'ai un titre sur ma Bible, « La gloire de Dieu dans la création ». Alors, c'est un psaume de David. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Premier verset, le dernier, c'est le même, hein, vous avez remarqué. C'est un hymne de louange. Et bien là, que David fait monter vers Dieu. On l'a appelé le poème méditatif, parce qu'il nous parle de la création. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous qu'il ne s'agit pas seulement de la création dans les œuvres de Dieu, il s'agit aussi du salut, de la rédemption. Et nous allons nous pencher sur le phénomène humain, ce que nous sommes. Alors, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des gens qui se penchent, non pas sur l'extérieur, hein, ça c'est la médecine, mais une autre médecine pour essayer de percer les mystères de l'âme, de l'esprit, de l'homme, l'espèce, et le phénomène humain. Vous avez remarqué avec moi, il y a un beau verset qui nous dit ceci, « Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Il s'agit de la souveraineté universelle de Dieu qui est bien louée par David. Il est question de la lune, les étoiles, du ciel, des astres, etc., etc. On n'a plus le temps tellement de regarder le ciel aujourd'hui, hein. Il n'y a plus qu'une étoile qui compte, c'est les écrans. Ah oui, c'est de la lumière, hein. Mais on ne va pas très loin, hein. Et c'est vrai. Je pense que du temps de David, il pouvait certainement passer des veillées à contempler par les beaux jours, hein, toute cette étendue qui nous dépasse, qui sont, tellement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et on est un peu perdu dans cet univers, hein. Et David, ici et ailleurs, comme d'autres d'ailleurs, vont véritablement adorer Dieu pour la magnificence et la grandeur de sa création. Alors il parlera naturellement des astres principaux qui sont visibles pour nous, mais quand on va au-delà, c'est autre chose. Donc il est question d'une souveraineté universelle. Et quand tout ça, ça fonctionne, est-ce que vous êtes arrêté à penser que si un jour la Terre s'arrêtait, on aurait mal au cœur, hein? Parce que là, on tourne à une vitesse extraordinaire sur nous-mêmes et ensuite autour du Soleil. Et vous n'avez pas de nausée? Non? Ça va? Si ça s'arrêtait, on aurait une grosse nausée. Parce qu'on s'en aperçoit pas. Hein. Vous rendez compte qu'on va à des milliers de kilomètres en ce moment-là. Hein? Et vous avez vu, les chaises restent en place. Vous ne volez pas sur les murs. Ah, c'est le génie créateur de Dieu. Hein? C'est formidable, hein? Et le fonctionnement du corps, quand on est en bonne santé, hein, c'est déjà plus délicat quand ça se dérègle. Mais c'est vrai, quand on voit le système cérébral, digestif, la circulation du sang, le cœur, etc., etc., on se dit, mais c'est formidable, hein. Mais on n'y prend pas garde, hein. Tous les jours, on n'est pas en train de prendre un livre de science pour voir un peu si ça... Il y a des gens qui souffrent finalement de se sentir malade partout et en toutes choses. Hein. Et puis, il y a ce verset qui nous intéresse, c'est surtout sur lequel nous allons nous pencher ce soir. Alors, après la louange à la création donc de Dieu, cette merveille, il est dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ça, c'est intéressant, parce que la question est posée par David. Elle est posée à travers tous les temps, elle nous arrive ce soir dans notre monde, hein, dans notre monde qui est le nôtre, et il est en train de soulever, David, les paradoxes, finalement, de l'humanité. Cet homme qui est capable de beaucoup de choses. Je voudrais quand même vous dire, et on en reparlera tout à l'heure, nous ne sommes pas issus de l'évolution. Moi, quand il m'arrive de regarder des reportages animaliers, vraiment, enfin moi je vous le dis, hein, c'est pour moi maintenant, chacun pense à ce qu'il veut. Quelquefois, quand je vois tel qui pourrait ressembler à l'homme, plein de poils, hein, et avec vraiment un comportement lourd et trapu, je me dis non, c'est pas possible. Alors je cours vers le miroir et puis je me regarde et je dis non, c'est pas possible. Vérifiez. Pour vous-même, je voudrais pas vous influencer, hein. Mais quand même, Monsieur Darwin a quand même lancé une bombe idéologique extraordinaire, hein. Pendant des siècles et des siècles, c'est vrai qu'avec naturellement l'influence de la religion qui n'a pas toujours été très avisée par rapport au domaine de la science, etc., etc. Mais toujours est-il que quand même, on avait inculqué aux hommes que l'homme était une créature de Dieu. Ben oui. Et jusqu'ici, quand bien même on s'intéresse à la zoologie, eh bien on s'aperçoit que ben, les animaux, on nous parle d'évolution, mais ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne peuvent pas parler, ils sont finalement régis par un instinct, hein, tout simplement. Mais bon, je pense que l'homme, c'est quand même autre chose. Hein. Vous vous rendez compte des capacités que nous avons? Alors attendez, on n'a pas tout vu. Parce que bientôt, on va rentrer dans l'ère de l'intelligence artificielle. Vous en avez entendu parler? Alors tranquille, on va prendre des vacances, les retraités. Ça va être formidable. Parce que finalement, les robots vont tout faire pour nous. Vous n'avez même plus besoin de penser. Non, mais c'est vrai. Vous avez entendu parler, ça, hein? Bon, alors on verra comment ça va donner, mais voilà. Bon, c'est quand même l'homme qui l'a inventé, tout ça. Hein, cette méthode, enfin, c'est plus qu'une méthode, hein, c'est une science. Mais toujours est-il que, je reviens... Qu'est-ce que l'homme? Oui, qu'est-ce que l'homme? Homme, qui es-tu? Et nous, on arrête du mal à se connaître de soi-même. On veut connaître les autres. On fait des analyses, on fait des études sur ceci et cela, dans le comportement humain. Mais est-ce que l'on se connaît soi-même? Ça, toute la question est là. Hein, pour nous dire que, tout d'abord, nous sommes des êtres créés. On n'est pas sortis de la poussière comme ça, par enchantement. Un accident dans un univers d'accidents, et puis comme ça on a fait notre apparition. Non, nous sommes des êtres créés. Créés, c'est vrai, avec la dimension de la corporalité, c'est-à-dire la matière, mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a une dimension de l'âme perfectionnée par rapport aux animaux. Je veux bien croire que les animaux peuvent avoir des sentiments et tout ça, mais c'est animal, c'est primaire. Mais l'homme, la capacité, vous rendez compte? Quand vous verrez, moi je ne sais pas, un babouin composer une symphonie, alors là on risque d'être soufflé. Hein. Non, non, mais c'est vrai, voilà. Bon, Mozart c'est Mozart, et puis voilà, hein, l'animalité à côté, naturellement. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose, ça c'est l'âme, avec tout ce qu'il peut y avoir de bon et de mauvais, hein, naturellement. Et puis il y a une autre dimension dont l'homme ignore, parce qu'il faut lire la Bible, il faut s'approcher de Dieu, et pas une lecture religieuse. Mais éclairés par le Saint-Esprit, nous apercevons que Dieu nous a créés avec un esprit. Ouais. Et cet esprit nous met en communion avec Dieu. Et cet esprit, alors que le corps disparaîtra, l'âme subsistera, mais transformée et régénérée, l'esprit finalement nous conduira et nous placera dans le royaume spirituel des cieux, de Dieu. D'ailleurs, on l'appelle le royaume des cieux. Et ça sera une autre dimension dont on ne saurait peut-être expliquer maintenant, mais toujours est-il que cet être qui a été créé a été abaissé, ou plutôt il s'est abaissé lui-même, en pensant finalement, eh bien là, s'élever. On connaît ce que veut nous dire le livre de la Genèse. Et puis, de créer, d'abaissement, il a été tout à nouveau élevé. Et ça, nous trouvons finalement déjà les prémices dans l'Ancien Testament, je pense à David. Mais nous le trouvons réalisé et réalisable par la foi en ouvrant les premières pages du Nouveau Testament. Tout à nouveau élevé. Tout le monde ne sera pas élevé. Il n'y a que celui qui le veut, celui qui le perçoit, celui qui le désire, celui qui aspire, et de ne pas rester dans cette condition humaine, hein, quelle qu'elle soit de toute façon, mais c'est ainsi. Et puis, on peut percevoir qu'est-ce que l'homme ? Eh bien, si on s'analyse un peu, on n'a pas tellement à faire les fiers à bras et de penser que si nous ne sommes pas des animaux, mais nous sommes presque des demi-dieux, alors toute la vie est là pour nous montrer toute notre éphémérité et notre extrême fragilité aussi. Et c'est ça justement le problème. D'ailleurs, il y a énormément de textes, anciens et nouveaux testaments confondus, où il est parlé de la fleur qui passe, qui fane. Il est parlé, finalement, eh bien, là, d'un souffle, toutes sortes de métaphores qui nous sont données pour nous montrer que, ben, aussi fort que nous soyons ou que nous croyons être, eh bien, nous ne sommes pas grand chose, hein. Même les plus puissants de la Terre, hein. Vous savez, il y a des gens, en ce moment, là, qui mènent le monde, hein. Ça, c'est clair. Et puis, ils dictent leurs lois d'une manière ou d'une autre, mais ce sont que des hommes, des mortels, qui disparaîtront comme tout le monde, de toute manière. Alors, tout cela, eh bien, est un peu proposé dans cette question. Mais qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Qui est-il ? Il faut se souvenir que nous sommes d'extraction et d'origine humble. Homme vient de ce mot humus. Et vous savez ce que c'est l'humus ? C'est la terre, tout simplement. Voilà, humus. Terre fertile, l'humus. Mais toujours est-il que ça vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. Hein. Et pour nous montrer que, quand on y regarde un peu plus près, on n'a vraiment pas à être arrogant ou orgueilleux d'une manière ou d'une autre. Et justement, c'est précisément l'orgueil qui fait l'incrédule. Parce que il se dit, moi, vous ne me ferez pas croire à ça. Tout ça, ce sont des... On préfère se réfugier peut-être dans des théories qui nous font... finalement, qui nous inspire d'une origine, eh bien là, comment on peut dire, d'évolution, tout simplement. Excusez-moi. Donc, c'est la fragilité qui nous caractérise, et la seule compréhension pour répondre à cette question, mais qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Eh bien, c'est tout simplement, cette compréhension ne peut nous venir de notre état actuel. Eh bien, ça relève d'une révélation de Dieu. C'est ce que, en quelque sorte, Jésus le dira particulièrement à Nicodème. Voilà, si quelqu'un n'est pas né d'en haut, s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas né de l'esprit, ben finalement, il est comme tout le reste, c'est un mortel qui va disparaître, et s'il n'a pas préparé cette dimension, et c'est pas sa religion, c'est pas sa piété, ce sont pas ses mérites ou autre chose qui vont changer les choses. Donc c'est une question de révélation. Et s'il y a un livre, par excellence, le seul, l'unique, c'est bien la parole de Dieu qui nous dit et qui répond. Mais qu'est-ce que là ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Tout simplement. Et ça peut être saisi par la foi. J'aimerais ramener justement un petit peu quelques principes. Vous les avez déjà entendus, mais on va les rappeler parce que c'est important pour la suite. Les origines. Alors on a naturellement ce qui nous est dit dans le chapitre 2. Chapitre 3, c'est la catastrophe, mais chapitre 2. D'abord, on le dit, on peut le résumer comme ça, c'est un être tripartite, corps, âme et esprit. Il est fait à l'image de Dieu, mais j'ajoute, il est fait à l'image morale de Dieu. Et ce qui fait que l'homme est supérieur à tout le reste de la création, et particulièrement au monde animal, évolué ou pas, monde animal évolué ou pas, une chose qui est certaine, c'est que nous avons encore les empreintes de cette main créatrice de Dieu dans ce que nous sommes, en quelque sorte. Nous avons était créé de la poussière, on l'a dit tout à l'heure, et poussière de la terre. Alors, nous étions des statues auparavant, vous savez, parce que la statue qui est faite de main d'homme, elle n'a pas la vie, hein. Il nous est dit que Dieu a soufflé un esprit, il a envoyé un souffle, et là, il devint une âme vivante. Et nous pouvons penser que c'est ce qui lui a permis à cette statue de poussière, de glaise, si vous voulez, ou d'argile, eh bien, de rentrer en communion avec son créateur à partir du moment où il a eu ce souffle, hein, qu'on appelle rua en hébreu. Eh bien, nous voyons que, à partir de ce moment-là, l'homme est devenu vivant. Donc, reconnaissance de son créateur et tout ce qui nous est dit dans le chapitre 2. Et il a été doué, Dieu lui a donné la capacité, la faculté de choisir. C'est-à-dire le libre arbitre. Adam, Adama, ça veut dire humus, terre. Ève, ça veut dire vie. Et c'est pas tout à fait la même chose parce que on peut dire qu'Adam a été créé et Ève est sortie d'Adam. Il y a eu là une petite subtilité et Isha, Ève, en hébreu, ça veut dire c'est Isha. Et ensuite, Dieu l'a créé une fois. Et après, la procréation et la multiplication a été l'union de la chair, ce qui fait qu'un couple, voilà, eh bien, est en capacité de donner la vie à des enfants. Et ça continue. Voilà, ça s'est multiplié. Dieu avait lancé cet ordre, multipliez-vous. Aujourd'hui, il y a du monde sur la terre. Il y a vraiment du monde. Et je tiens à le dire, ce n'est pas une évolution. Ce n'est pas une évolution. Avant la chute, on peut toujours le rappeler, on l'a dit, les hommes pouvaient communiquer librement avec Dieu. Et ils étaient proposés, ils avaient été créés, l'homme avait été créé pour refléter la gloire de Dieu. L'homme était saint, c'est-à-dire mis à part. Vous comprenez hein, le mot, mis à part. Il était sans péché avant la chute, naturellement. Il avait autorité sur la nature, sur les animaux. Et on pourrait résumer la condition morale de l'homme avant la chute. Ils étaient purs et innocents. On a souvent comparé Adam et Ève comme des enfants. Voilà, ils ne connaissaient pas. Un enfant, il est pur, il est innocent. Jusqu'au jour où, dans son environnement, il va prendre conscience. Et vous savez que les enfants sont de plus en plus conscients, finalement, du mal et de plus en plus jeunes. Hein. C'est terrible, hein. On le voit. Hein. Alors, je répète tout simplement les dimensions de l'homme. Elle est matérielle, le corps. Soma, ce qui a donné le mot somatique. Vous savez, les gens qui souffrent de l'intérieur et qui ont des problèmes, finalement, de ressenti physique. Il est doté de 5 sens. C'est ce que Dieu lui a donné. La dimension de l'homme, une autre dimension, c'est qu'il a une dimension de l'âme, psyché, ce qu'on a donné le mot psychique, psyché, une vie intérieure qui est composée de la réflexion, de la conscience, de l'intelligence, de la volonté, des émotions, le corps mort, mais l'âme subsiste. C'est bien de remettre un petit peu ces principes, parce que quelquefois les gens sont complètement perdus, peut-être même des chrétiens. Voilà, on ne voit que le corps, bon, il y a bien une âme, on ne sait pas trop ce que... Voilà, mais il y a 3 dimensions, et la troisième, c'est l'esprit, pneuma, souffle. Voilà le mot souffle, et ça, c'est la dimension du spirituel. 3 entités, 1, 2, 3, corps, âme et esprit, 3 unités pour une entité. C'est ce que nous sommes, mais nous sommes à l'image de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, on va pas faire trop de théologie ce soir. Voilà, donc, pourquoi Dieu, et la question nous est posée, pourquoi Dieu se souviendrait-il tout simplement de l'être qu'il a créé? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te penches sur lui, que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Là, nous touchons déjà les prémices des compassions de l'amour de Dieu. On en reparlera tout à l'heure en conclusion. L'amour de Dieu. Quel échec si Dieu avait abandonné sa créature en disant « voilà, ils ont péché, maintenant c'est terminé », etc. Non. À partir du premier moment où l'homme a péché, Dieu avait déjà mis un plan de salut. Pas de salut pour le diable. Pas de salut pour les démons. Pour les anges qui se sont révoltés, on est d'accord. Mais pour l'homme, oui. Maintenant, ça fonctionne qu'avec le consentement de l'homme, naturellement. Alors, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et on peut dire que tout cela, eh bien, la conséquence a été finalement, ou les causes, c'était la rupture et la grande séparation. J'aimerais maintenant aborder un deuxième point, c'est la condition de l'humanité en dehors du salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire ce que nous étions, nous, auparavant. Il y avait un avant et un après. Et j'aimerais bien mettre au point, finalement, ou tout simplement nous remémorer, la condition de l'humanité créée par Dieu en dehors de la rédemption en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous étions? Alors, beaucoup de textes, et on s'aperçoit que Paul est très bavard sur le sujet, enfin, il a écrit beaucoup de choses, hein. Des choses dont vous rougissez aujourd'hui quand vous regardez votre vie passée, parce que bon, voilà, hein, les choses n'étaient pas certainement comme il fallait. Et on peut dire, ça se résume par un mot, il va y avoir les deux, hein. Il va y avoir l'alternance, c'est le mot perdu, le mot perdition. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, enfin, pour des choses peut-être indifférentes de la vie dans peut-être le monde. Mais c'est un mot qu'on a du mal à prononcer parce qu'il y a les perdus et il y a les sauvés. Et les perdus, c'est justement tous ceux qui sont en dehors de la rédemption en Jésus-Christ. Ce n'est pas, il faut le rappeler, ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas tout le reste, je ne vais pas le rappeler, parce que je le dis assez souvent. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'homme est perdu. Et on le trouve très très fréquemment dans l'Écriture, qu'il n'y a pas d'autre possibilité. La tragédie de la chute. La tragédie de la chute, eh bien, on peut, avant d'aller un peu plus loin, avant de citer, ou je vais citer peut-être le texte biblique, parce que on prêche très rarement sur le sujet, et pourtant, il est quand même assez important d'en parler. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44, 45 par exemple, jusqu'au verset 49, écoutez bien, on va prêter attention à cela. Verset 45, il y dit ceci, c'est pourquoi, et je parle de perdition, je parle de perdu, je parle d'une humanité qui est en dehors de la rédemption en Jésus-Christ, c'est pourquoi. Il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'est ce que nous avons dit et précisé tout à l'heure. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est l'homme qui est né de nouveau. Nous avions hérité, contaminé par le péché d'Adam et nous étions perdus. Le dernier Adam, l'homme nouveau, eh bien, est un esprit vivifiant. C'est-à-dire que il y a eu là, eh bien, une rédemption, il y a eu là l'œuvre du salut. Je continue. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, on l'a bien compris. C'est ce qui est naturel, le premier Adam. J'espère que c'est pas trop compliqué. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est pour ça qu'il y a une cohérence extraordinaire quand Jésus enseigne la nouvelle naissance à Nicodème qui était un homme religieux et il lui fait comprendre que finalement, eh bien, tout religieux qu'il est, tout bon juif et respectable et un homme honorable, il est perdu. Il faut naître de nouveau. Il faut que véritablement il rentre dans la dimension de la vie de l'esprit. Alors, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite, nous l'avons dit. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et si je peux me permettre de vous annoncer une bonne nouvelle, nous sommes les uns et les autres assis déjà dans les lieux célestes. Vous êtes assis sur une chaise, sur la terre, mais vous avez déjà dans votre identité nouvelle, dans votre renaissance, dans votre vie nouvelle, avec votre nouvelle naissance, eh bien nous sommes assis dans les lieux célestes. Dieu nous reconnaît comme ses fils et ses filles, et nous avons déjà notre place dans les lieux célestes, si naturellement nous persévérons jusqu'à la fin. Mais par la foi, eh bien nous sommes sauvés. Vous ne craignez rien, mes amis. Vous ne craignez rien, Dieu vous a pris, vous avez répondu à son appel. Qui pourra vous troubler? C'est ce que Paul dit par exemple dans Romains au chapitre 8. Mais qui peut vous menacer? Qui vous accusera? Puisque Christ a donné sa vie, croyez-le, qui peut vous arracher? Est-ce que ce sera la mort? Est-ce que ce sera la vie? Est-ce que ce sera les tribulations, la faim, la soif, l'épée ou un truc? Non, ou autre chose. Non, parce que au cœur de tout cela, et ça revient, et on va en parler tout à l'heure, c'est que nous sommes sauvés non pas grâce à nous et à notre amour que nous avons pour Dieu, mais à l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est tout à fait différent, naturellement. Alors, il est tiré de la terre, le premier. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous vous rendez compte? L'image du terrestre. J'ai une tête, j'ai des bras, j'ai des jambes. Ben comme vous, hein, on pense qu'on est à peu près fait pareil, non? À moins qu'il y ait eu un accident qui soit survenu et qu'on ait perdu quelque chose en route. Non, mais ça c'est l'image du terrestre, avec tout ce qu'il peut y avoir de physique, de corporel, tout ce qu'il peut y avoir de moral aussi. On a parlé de l'âme. Mais il va y avoir une transcendance, alors que c'est le naturel, c'est le corps qui domine. Tant qu'on est sur la terre, avec nos appétits, avec nos convoitises, avec toutes sortes de choses qui peuvent nous conduire d'une manière ou d'une autre, hein. Mais les choses sont renversées et nous porterons l'image du céleste. Alors, quel sera le corps glorifié? Qu'est-ce que l'homme, hein? Quel sera finalement notre corps glorifié? Vous savez qu'on a déjà un nom nouveau et qu'on a déjà un caillou blanc? Oui. On a déjà un nom nouveau qui est le reflet déjà de notre identité en préparation, voire même en construction, en élaboration, et nous avons une identité dans le ciel. Le corps disparaîtra. Oui. L'âme sera transformée. Je dis bien, le corps ne sera pas transformé. Hein. Voilà. Hein, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la forme d'obsèque que vous voulez, ça ne changera rien. Hein. Poussière, tu retourneras la poussière. Hein. Je le dis au passage, parce que quelquefois, il y a des chrétiens qui sont troublés avec ça. Hein? Ça ne sert à rien. Ou alors, à ce moment-là, c'est que nous croyons que vraiment le corps est d'une importance. Bon, je le répète encore, mais c'est une enveloppe, hein, tout simplement. Mais l'essentiel, c'est l'âme. Et l'âme sera reprise en sous-main par l'Esprit de Dieu, et de l'autre côté, nous aurons un corps glorifié qui nous sera donné à la dimension céleste. Vous vous rendez compte, hein? Ça sera extraordinaire, avec des propriétés comme celles de Jésus. Hein? Il pouvait passer à travers les portes. Il n'y aura plus de portes. Il pouvait se déplacer. Hein, on peut pas s'imaginer. Je voudrais pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus. Et on va pas épiloguer là-dessus. Et on va pas spéculer là-dessus comme certains qui ont écrit des bouquins, des bouquins, des bouquins en disant voilà le ciel. Ouais, un jour, ça m'est arrivé d'avoir un livre, hein, où il décrivait finalement le ciel avec des rues pavées, avec toutes sortes de choses et tout ça. Il avait de l'imagination. Je me suis demandé c'était une femme qui l'avait écrit, je pense. Beaucoup d'imagination chez les dames. Hein. Et excusez-moi, mais toujours est-il que les choses avaient été tellement formulées que moi j'ai refermé le bouquin parce que je me suis dit c'est pas possible. Soit il a été à l'air venu pour écrire son livre. Mais bon, non mais bon, faut rester, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est pas la peine de nous mettre martel en tête et d'induire les autres en erreur, mais nous sommes voués, nous sommes préparés à avoir un corps glorifié, on n'en sait pas plus, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, merci Seigneur hein, pour ce que tu es en train de préparer ça naturellement. Alors, l'état de l'homme en dehors finalement, de la rédemption en Jésus-Christ, a été la cause de son mauvais choix d'abord. Le péché a contaminé l'humanité. Par un seul homme, le péché s'est étendu à tous les hommes. C'est pire que toutes les maladies qui puissent exister sur la terre. Une contamination, naturellement. Tout homme n'est pécheur. Alors vous allez me dire, mais vous savez, quand on voit un petit bonhomme ou une petite bonne femme hein, qui arrive à 6 mois et tout ça, c'est mignon, c'est formidable, etc., etc. Mais il est déjà, finalement, hein, parce que ses parents sont ainsi, lui sera ainsi, et quand il va commencer à prendre conscience des réalités, il verra que le bien existe et le mal existe aussi. Et aucun homme ne résiste, hein, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que même avec la meilleure volonté, c'est inconcevable ce que je suis en train de dire, mais on est beaucoup plus porté naturellement aller vers le mal que vers le bien. Le bien, on l'apprend le bien, toute l'éducation des hommes et l'instruction, etc., pour faire le bien, pour vivre dans la société. Mais le mal, on l'apprend pas, il vient tout seul. Hein. C'est terrible hein, ça. Il n'y a pas d'école pour le mal. Donc cela a amené une mort physique d'abord. Mais il y a aussi en conséquence pour l'homme qui est en dehors de la rédemption en Jésus-Christ, une mort spirituelle. Enfin, il y a une dimension spirituelle, mais avec deux directions. Il y a la félicité, le royaume de Dieu, où on a parlé là du corps glorifié, etc., dans la présence de Dieu, dans le bonheur, et c'est ce qu'on appelle la félicité, naturellement. Et puis, il y a également l'autre direction, mais c'est l'homme qui choisit. Voilà. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Choisis la vie et non la mort. Ça, c'est Moïse qui dit cela au peuple d'Israël. L'homme est privé de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il se donne une gloire à lui-même. N'ayant plus le modèle et n'ayant plus la référence, n'ayant plus la conscience même, alors il se glorifie à travers toutes sortes de voies, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, je veux dire, ou autre chose. Le chef militaire général et qui remporte des victoires, ben c'est une gloire, c'est un peu l'histoire de Naaman. Donc il est privé de la gloire de Dieu, il est séparé de Dieu. Il parle peut-être de Dieu, mais il ne sait pas de qui il parle. Il est perdu, il est égaré. Et à ce moment-là, s'il ne réagit pas, s'il n'entend pas l'appel, ou Dieu commencera à lui parler par sa conscience, alors à ce moment-là, eh bien, il est plongé dans les ténèbres, il est aveuglé, il est condamné, il est jugé, et puis il est esclave de la corruption. C'est ce que Jean nous dira d'une manière très claire dans son évangile. Il dira, mais celui qui est dominé par le péché est devenu esclave du péché. Mais si le Fils vous a franchi, à ce moment-là, vous êtes réellement libre. Donc il y a toujours, finalement, eh bien, l'équivalent. Et il nous est parlé de colère de Dieu. Colère de Dieu, c'est pas le sens de colère où on l'entend, nous, quand on est irrité, etc., etc. C'est quelque chose, c'est une situation que Dieu n'a pas voulu, dans laquelle l'homme s'est mis et qui a fermé, finalement, cet accès, cette connaissance et cette communion avec son Créateur. Voilà la situation. Quand on revient à notre texte, au verset 6, il est dit ceci, alors je relis le verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Verset 6. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Dans le livre des Hébreux, il nous est dit « Tu l'as fait inférieur aux anges. » Voilà, c'est ça. Mais là, il est dit « Tu l'as fait inférieur à Dieu. » Bon, le terme qui désigne Dieu, c'est Elohim. C'est-à-dire, c'est le pluriel, c'est le nom pluriel qui désigne Dieu lui-même. Elohim, vous en avez peut-être entendu parler, et une fois on le met dans le cantique. Donc, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, vous rendez compte, couronné. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Pour le couronner, malgré tout ce qu'on vient de dire, naturellement, tout ce que l'on vient de détailler. L'homme, dans ce verset, est extraordinairement élevé, créé, abaissé à cause du péché et de sa condition d'incrédule, et il nous est montré que Dieu l'élève, finalement, et sur la condition originelle, Dieu va changer les choses. Il est perdu sur le plan originel. Il est perdu à cause de son péché. Et comme nous avons dit tout à l'heure que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il porte, et finalement, il est accompagné dans cette image confuse que nous, les chrétiens, nous essayons finalement de retrouver par notre connaissance de Bible, par la lecture de la Bible, par nos prières, par notre communion. Et encore, le chemin est très long, et souvent c'est très confus, naturellement, même après une vie de vie spirituelle ou de vie chrétienne, c'est encore très confus, mais néanmoins, quelle différence il y a eu quand le Saint-Esprit est venu éclairer nos cœurs et nous a donné l'illumination, sans que nous soyons des illuminés, faut bien le dire. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu, donc, nous portons cette gloire, ces vestiges de gloire, ces fragments de gloire, nous pourrions dire, et de magnificence, malgré notre déchéance. C'est ce qui fait que l'homme est l'homme. C'est ce qui fait que c'est un être supérieur. C'est ce qui fait qu'il demeure toujours au-dessus et il dominera au-dessus du monde des vivants ou du vivant. On pourrait dire ça d'une manière universelle, d'une manière générale. Parce que on le voit, par exemple, et on va le lire tout de suite, quand il est dit « Mais tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. » Vous rendez compte le cadeau que nous avons. Mais qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'homme fait de Dieu? Qu'est-ce que l'homme fait du don que Dieu lui a donné? Quand on voit aujourd'hui la pollution, quand on voit que la Terre est détruite, quand on voit qu'il y a un sixième continent avec toutes les ordures, finalement, qu'il y a dans le monde, ça flotte. Et on ne sait pas ce qu'on va en faire. Qu'est-ce que l'homme fait avec la pollution? Je suis pas un écologiste engagé, mais je veux dire, mais qu'est-ce que l'homme est en train de faire? On se génère des maladies graves, on fait toutes sortes de choses, on empoisonne la terre, on empoisonne la nourriture, on empoisonne l'air, hein, toutes sortes de choses. Je vais bientôt devenir ministre de l'écologie, vous allez voir, parce que là je vais avoir le temps. Mais bon, toujours est-il que, qu'est-ce que l'homme fait? Tu lui as donné la domination sur tout ce que ta main a créé dans les cieux, enfin, notre atmosphère, sur la terre, sur les mers, d'une façon ou d'une autre. Quel gâchis! Et ça, c'est le péché qui a fait ça. Hein. Quand il n'y a pas une guerre qui détruit tout. Hein. Parce que la guerre, je peux vous dire que ça fait des ravages. Hein. Non seulement des vies humaines, mais alors dévastation et destruction. Hein. Tu lui as donné donc de dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds et l'homme piétine. C'est ça le problème, c'est qu'il est, s'il était respectueux. Il est même pas respectueux de la nature créée par Dieu, il est même pas respectueux de ses semblables. C'est-à-dire, quand on voit le racisme, la xénophobie, quand on voit les animosités, quand on voit la haine, quand on voit tout ce qu'il peut y avoir même dans une même nation, parce que les gens sont de religions différentes ou de couleurs différentes, ou pensent autrement, c'est terrible. Ouais, tu as tout mis sous ses pieds, et l'homme a écrasé. C'est toujours la conséquence du péché, on est toujours là. Hein. Ouais. Les bœufs, les brebis, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers, terre et mer. Voilà ce que Dieu a fait. Donc il demeure toujours au-dessus. Alors on n'est plus certainement à l'état primitif. Moi je pense que Adam n'a jamais été un homme primitif. Il avait des capacités que nous n'avons peut-être plus, ne serait-ce que déjà dans la longévité, même après la chute. Hein. Vous savez quel âge il avait, Mathusalem? Allez, dites-moi un petit peu là. Oh, plus que ça. Moi je l'ai bien connu, je vais vous répondre. Il avait 900 et quelques années, vous vous rendez compte? Ah ouais. C'est pour ça que les caisses de retraite aujourd'hui sont vides. Faut faire attention, hein. Ah, j'ai peur pour toi. Bon. Mais c'est ça, hein. Ce n'était pas un primitif. Il avait des capacités physiques. Il avait des capacités forcément cérébrales et intellectuelles puisqu'il voyait Dieu. Nous, on le voit pas, hein. Et toutes sortes de choses. Ouais. Toutes sortes de choses. L'homme abaissé, puis l'homme relevé à la faveur d'un miracle dont nous allons parler maintenant, c'est le miracle de Dieu, c'est la réponse, finalement, première proposition, la vraie, la proposition embryonnaire, nous pourrions dire, qui nous amène, finalement, eh bien, jusqu'à notre propre salut. Et donc, abaissé, relevé, de la terre jusqu'au ciel. Parce que c'est le but, hein, quand on lit par exemple Corinthiens, c'est bien cela dont il s'agit, hein. Où nous échappons à la mortalité pour rentrer dans l'immortalité, c'est la proposition de Dieu. Du naturel vers le spirituel, nous l'avons dit il y a un instant, dans de la temporalité jusqu'à l'éternité. Oui, l'éternité. Eh bien, on va reprendre ce texte dans 1 Corinthiens, parce qu'il mérite quand même que nous puissions regarder cela. C'est très intéressant, hein, ce passage. Alors, je vais peut-être reprendre le verset 42. On va le relire, bon, on ne l'a pas lu, mais « Ainsi en est-il de la résurrection ?» C'est ça le miracle de Dieu, la résurrection. Les hommes ne croient pas à la résurrection. Ils pensent que une fois que la vie est terminée, c'est fini. Ouais. Alors, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts ?» Donc, ça va ensemble. Hein. Mais pour ressusciter, il faut mourir. Autrement, le mot n'a pas de sens. C'est un non-sens, nous pourrions dire. Le corps est semé corruptible. Et regardez, écoutez, il ressuscite incorruptible. Et c'est pas par nos bonnes actions, c'est pas par notre sanctification forcée, ce n'est pas parce que nous allons nous-mêmes, eh bien là, faire les choses à la place de Dieu, ça a été fait, ça. Hein. Alors, il ressuscite incorruptible. S'il est semé méprisable, avec toutes nos souffrances que nous pouvons avoir, bénignes ou graves, parce que nous souffrons sur cette terre, il y a des millions et des millions de gens, et peut-être même des milliards, qui sont en souffrance au moment où je suis en train de vous parler. Souffrir dans leur corps, souffrir de de choses qui sont peut-être, tout simplement chroniques, mais il y a des maux aigus, il y a des souffrances qui sont abominables, il est semé méprisable, donc malade, on peut dire ça comme ça, hein, et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, on vient de le dire, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel et il ressuscite spirituel. S'il est un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Eh oui, il y a aussi un corps spirituel. Vous avez bien fait de répondre à l'appel du Seigneur, parce que vous avez de l'avenir. Et il n'y a pas d'avenir pour les pécheurs. Il n'y a pas d'avenir pour celui ou celle qui ne croit pas au salut que Dieu a donné en Jésus-Christ. Et la preuve, c'est que celui qui est passé par la résurrection divine, c'est celui qui a donné sa vie, non pas pour lui, mais pour nous. C'est pas facile, hein, de croire à la résurrection. Moi, je me sais, quand je l'ai déjà dit, mais quand je me suis converti, c'est pas d'aujourd'hui, y a une chose que je croyais. Franchement, c'était une période magnifique pour moi, extraordinaire, vraiment un bonheur extraordinaire, franchement. Vous voyez, hein. Mais toujours est-il qu'il y avait une chose sur laquelle je butais dans les premiers mois. Ah, j'arrivais pas à comprendre que quand on est mort et puis on ne peut pas ressusciter. Vraiment, c'était quelque chose sur lequel je butais. Et je pense que, vraiment, j'ai supplié le Seigneur, je pleurais, j'ai dit à Seigneur, donne-moi, parce que c'est fondamental. Voilà. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais croire que Jésus, eh bien, il est mort pour moi, mais il est ressuscité pour que moi j'ai la vie. Et sa résurrection m'ouvre la porte à l'immortalité, à l'éternité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, mais il y avait une résistance. Et moi, je pense que cette résistance, c'était pas seulement mon propre cœur, c'était aussi l'adversaire qui voulait me fermer cette porte et qui me tenaillait, voulait absolument que je n'atteigne pas ce point-là. C'est pas la réincarnation, hein. La réincarnation, c'est le corps. Vous avez des philosophies et des théories religieuses orientales où là, eh bien, ça ne reste que finalement à l'état de la réincarnation. Qu'est-ce que ça veut dire réincarnation? Il est question du corps qui va se renouveler dans un autre corps. Je suis homme aujourd'hui, demain. Qu'est-ce que vous pensez? Un tigre? Je peux avoir de clientèle. Non, mais c'est vrai, un loup ou une souris. Bah écoutez, hein, ça vole pas haut, hein. Franchement. Et vous avez des millions de gens. Oh, je suis encore modeste. Hein, qui croient à ce genre de légende et de conte que quand ils vont mourir, alors ils vont faire leur karma et alors ils vont le faire. Pardon. Ils vont le faire dans leur vie terrestre d'homme et après ils redescendent dans la condition animale. C'est bah oui. Puisque c'est souvent la question. Et ils vont le faire combien de fois comme ça, jusqu'à temps qu'ils soient arrivés? Mais c'est une aberration diabolique. Ouais, écoutez, franchement, hein, vous croyez à la réincarnation? Vous êtes en doute, hein, parce que personne ne répond. Alors moi, j'ai l'impression que je commence à avoir des doutes sur un petit oiseau sur la branche. Hein? Alors, non, mais c'est vrai. Comment l'homme s'est laissé abuser, et à travers la religion derrière, parce qu'il y a les prêtres, il y a toutes sortes de, enfin, prêtres, qu'ils soient chrétiens ou non, hein, peu importe, hein. Mais comment l'homme, dans cet aveuglement, dans l'obscurcissement de sa conscience, parce que, il faut bien dire qu'il est quand même fait à l'image de Dieu, et qui va adorer un bœuf, qui va adorer un veau, comme les Hébreux, qui va adorer une vache, parce que vous savez, là-bas, les vaches, elles sont tranquilles, hein. Non, mais formidable, hein. Et on va vous tuer si vous bousculez avec votre voiture une vache, hein, je peux vous dire, hein. On va vous tomber dessus et vous allez voir, hein. C'est terrible, hein, des choses comme ça. Mais comment l'homme en est-il arrivé là? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et que tu prennes garde à lui? C'est abominable, des choses pareilles, hein. Abominable. Alors voilà le prodige de la résurrection. On l'a vu il y a un instant. Faire sortir de la mort la vie. Et nous avons une belle image, je le passe très rapidement. Mais vous savez, c'est comme un sommeil. Il y a quatre saisons. Il y a l'automne et l'hiver où tout s'endort, tout meurt. Mais vous savez, on vient de sortir là. On va rentrer dans la saison la plus lumineuse et la plus chaude, mais déjà dès le mois de mars, et même le mois de février, quelquefois par certaines périodes, vous avez l'éclatement de la nature. Et en quelquefois, s'il fait très beau et avec un peu d'humidité, en 2 ou 3 jours, toute la nature va être transformée, va être métamorphosée. Et oui, moi j'ai un arbre devant chez moi, pas moi qui l'ai planté, hein, mais toujours est-il qu'on l'a observé, parce qu'on n'a que ça à faire. Et en regardant par la fenêtre, il est juste devant chez moi. Et en combien ? 2 jours, 3 jours. Il était, alors, un squelette. Voilà, il était mort. Hein, voilà, squelettique. Hein. Et en, je sais pas, il a dû faire beau, là, à ce moment-là. Il a commencé à avoir des feuilles tendres, vert tendre. Et d'un seul coup, alors maintenant, moi, ça me cache la vision de la rue. Et je vois plus rien. J'ai eu quelquefois l'intention de dire, je vais les prendre là. Mais bon. Non, faut pas toucher aux arbres. Hein. Voilà. Hein. Moi, je suis un peu comme Obélix, vous savez, moi, ça me prend le cœur. Hein. Si vous connaissez la littérature. Mais bon, toujours est-il que c'est ça. Et notre vie, c'est ça. Nous allons comme les saisons. Il y a la saison. Et à un moment donné, il y a la jeunesse. Il y a le printemps, il y a la fraîcheur. C'est ça, hein. C'est beau, hein. C'est vrai que c'est beau. Quand on commence à avoir des rides, on se dit, bah, dis donc, on était comme ça, mais maintenant, on est devenu comme ça. Bon, c'est vrai que ça a changé quelque part. Mais bon, si on change en maturité et en profondeur de vie, c'est ça le fruit, hein. Ensuite, il y a l'été, qui va produire, là, finalement, eh bien, tout ce qui est nécessaire. L'automne, dégradation, commence, et puis vous avez l'hiver, et puis après, ça recommence. L'image de la nature nous sert d'exemple et de modèle pour espérer. Et l'homme a tout, déjà, pour espérer, même s'il regarde, finalement, autour de lui. Hein. Alors, la résurrection. Et je reviens encore à mon texte, hein, de Corinthiens, on va le conclure, là, maintenant. Et dans l'épître de Paul aux Corinthiens que je retrouve, il est donné cette parole. Donc c'est toujours au chapitre 15, hein, parce que franchement, il y a beaucoup de choses sur ce formidable chapitre. Alors, Corinthiens, j'ai enlevé ma petite épingle, et je ne retrouve plus. Mais toujours est-il, voilà, verset 21, il est dit ceci. Car puisque la mort est venue par un homme, vous souvenez, hein, le premier Adam, d'accord ? C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Jésus, eh oui, c'est fondamental dans la doctrine chrétienne. Jésus, mort et ressuscité. S'il n'était seulement mort, eh bien nous ne serions pas sauvés. Et comme tous meurent en Adam, il nous a fait un drôle de cadeau, hein, franchement. De même aussi, tous revivront en Jésus-Christ. Moi, je trouve que c'est des paroles extraordinaires. Hein. Moi, je me suis régalé. Hein. Moi, je lis ce texte et je le commande que quand j'ai des sépultures. Enfin, je vous invite pas, parce que vous l'entendrez pas. Les autres, peut-être. Et c'est vrai. C'est nous, quand on est en formation pastorale, c'est toujours ce qu'on nous dit. Hein, faut bien méditer parce que c'est souvent comme ça. C'est pour donner de l'espérance. Eh oui. Ah, il y a quelquefois, on est dans d'autres cadres religieux. C'est terrible parce que il y a aucune espérance. Hein. Ça s'améliore un petit peu en ce moment. Mais moi, la vieille religion qu'on a connue, je peux vous dire que ça passait par le purgatoire, ça passait par ceci et cela, il n'y avait aucune espérance. Bon, nous, chrétiens évangéliques, on dit aux gens qui pleurent, et on dit aux gens qui aussi passeront par ce genre d'expérience, qu'ils ont finalement la peur, n'est pas à redouter. C'est quelque chose qui va nous faire rentrer dans une dimension véritablement de vie et pour l'éternité. Hein. Alors, nous revivrons tous en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, et vous avez compris pourquoi, naturellement. Puis ceux qui appartiennent à Christ, c'est-à-dire nous, lors de son avènement, quand il reviendra pour chercher son Église. On appelle l'enlèvement de l'Église. Mais nous sommes déjà, on peut passer par l'enlèvement, mais déjà les choses sont faites pour nous, hein. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, et après avoir réduit à la puissance la mort. Les choses sont ainsi. Et pour terminer, je voudrais simplement dire quelques mots sur la destinée des chrétiens, des hommes en Jésus-Christ, dans le temps présent et dans l'avenir. Perdition, on l'a vu, mais pour celui qui croit, celui qui a la foi, eh bien, il n'est plus perdu, il est sauvé. C'est le salut, et ce n'est pas la perdition. Et tout cela par un moyen très simple, c'est la foi en Jésus-Christ. La grâce que nous saisissons, parce que nous ne le méritons pas, mais par la foi, nous le saisissons. C'est une œuvre de rédemption à la croix que Jésus a accomplie. Vous vous souvenez quand on a passé le film sur les serpents brûlants, là, il n'y a pas si longtemps que ça, hein? Regarde, rien d'autre à faire. Regarde, tourne tes regards. Et si tu tournes les regards, tu seras guéri du poison, du venin, du péché et du mal. Eh oui, un simple regard et je suis sauvé. On le chante très souvent. Hein? Et alors à ce moment-là, eh bien, il y a une œuvre que l'on appelle la régénération par le Saint-Esprit. Ça vient pas de nous, mais c'est le Saint-Esprit qui agit, tout simplement. Notre image est restaurée, parce que l'homme qui passe par cette expérience, celui qui était perdu, révolté contre Dieu, devient un homme nouveau. Il ne jure plus, il ne ment plus, il ne fait plus des choses qu'il faisait auparavant, il n'a plus qu'un modèle, c'est de vivre une vie qui soit agréable et à la gloire de Dieu. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il n'est pas envieux, il a chassé la haine de son cœur, il ne fait pas des choses qui sont contraires, hein, finalement, et bien au bien. Donc, il est restauré. Et c'est un arrêt fatal de ce processus de déchéance par le moyen de la repentance. J'ai mis ça, c'est parce que ça rime, non? Non, tout simplement parce que c'est comme ça que ça se passe. Seigneur, je te demande pardon de mes péchés. Je te demande maintenant, eh bien, de me pardonner. Je crois que tu me pardonnes. Et alors, à ce moment-là, il y a tout un processus qui se met en route. Vous l'avez vécu, naturellement. Et puis, dans les temps présents et à venir, vous savez que nous, il est dit, hein, il est parlé de couronne. Il y a 5 couronnes. Couronne de gloire, couronne de vie, couronne... il y en a, je ne sais pas en mémoire, mais il y a 5 couronnes. En fonction, finalement, de notre caractère que nous aurons développé à l'image de Jésus-Christ. Et puis, il y aura les récompenses. Ouais, ça sera pas la petite médaille, là, vous savez. Non, non, ça sera autre chose. Et si vous pouvez vous donner une idée, mais très, 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 très éloignée, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai le gouvernement de 10 villes, de 5 villes, parce que, bah, rentre maintenant, bon, et entre dans la joie de ton maître, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Alors bon, l'image est ce qu'elle vaut, hein, c'est une parabole que Jésus nous donne. Mais imaginez-vous ce que ça peut être de l'autre côté. C'est ça les récompenses. Hein. La conclusion, c'est que la part de Dieu se résume en un mot, amour. Il nous est dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est lui qui nous a aimés dans notre déchéance, dans notre révolte, et lorsque nous lui avons tourné le dos. Et qui dit amour dit pardon de Dieu. Il faut y croire. Et quand il est dit ceci, mais Dieu nous prouve son amour en nous donnant Jésus-Christ, c'est dans Romains chapitre 5 et verset 8. Dieu nous a prouvé notre amour alors que nous étions sans espérance, que nous étions morts, en nous donnant son Fils Jésus-Christ et que nous puissions croire en lui. Croire qu'il nous a donné finalement ce qu'il avait de plus précieux et il l'a fait par amour. C'était pas pour sauver la mise, hein. Non. D'une créature qui y avait dévié. Pas du tout. C'est parce qu'il nous aime. Et puis la part de l'homme, pour être sauvé, on pourrait tout simplement la résumer avec ce qui s'est passé un jour lorsque Paul et Silas se sont trouvés à Philippe. Et la confession d'un homme est tout à fait éloquente pour nous dire que c'est le rôle que nous avons. Au chapitre 16 et au verset 27, il est dit ceci, « Le geôlier se réveilla, vous avez compris, hein, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée pour aller se tuer. » Il voulait se suicider, cet homme, en pensant que le désespoir, eh bien là, l'avait complètement atteint et qu'il n'y avait plus d'espérance, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, moi je dis que tout homme, sur cette terre, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa religion et sa race, d'une manière ou d'une autre, quand il demande de la lumière à Dieu, Dieu va lui envoyer la lumière de sa parole, la lumière de son esprit. Il a demandé de la lumière, il entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Alors Paul lui a répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est pas plus difficile. Et avec tout cela, eh bien, l'homme créé par Dieu, l'homme abaissé par sa faute, l'homme relevé pour une dimension qui est celle du ciel. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. que Dieu nous donne sa grâce. Qu'est-ce que tu es, Seigneur, pour t'occuper des hommes? Oui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que finalement tu le regardes avec bonté, amour et miséricorde pour le sauver. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole ce soir à nouveau. Nous croyons, Père éternel, que ce qui a pu être dit, c'est, l'essentiel de l'évangile, du début jusqu'à la fin, du commencement, Seigneur, jusqu'à véritablement notre destination finale. Et nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus, de ce que tu as eu compassion de nous. Et nous pouvons dire encore, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui suis-je, Seigneur, pour qu'un jour, tu aies penché ton regard vers moi, moi qui ne te cherchais pas, ou qui te cherchais à travers toutes sortes de choses, qui n'avaient rien à voir avec, la révélation de ta pensée, de ta volonté contenue dans l'Écriture sainte. Mais Seigneur, qui suis-je, Seigneur, pour que tu t'aies souvenu de moi et que tu as pris garde à ma misère, à ma désespérance, à mes peurs et à mes craintes, à mes frayeurs de la mort? Seigneur, nous voulons te bénir ce soir et te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as mis à part. Tu nous as mis de côté pour nous parler, pour parler à notre cœur, pour nous dire que tu avais de bons desseins, que tu avais un plan merveilleux, excellent. Et Seigneur, tu as entrepris cette restauration peu à peu et tu la continues encore aujourd'hui. Je te demande que ta parole puisse parler au cœur. Il y a une voix humaine, mais moi je me confie beaucoup plus dans la voix de l'Esprit qui parle à la conscience, qui parle à l'intelligence de l'homme, qui parle à son cœur. Alors, que faut-il faire pour être sauvé? Eh bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Merci Seigneur. Amen.
Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.